Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Margot.
Bonsoir et bonsoir aux auditeurs et auditrices. Je suis très contente d'être avec vous.
Eh bien, bienvenue, on est ravis de vous accueillir.
C'est très gentil. Je vais vous raconter pourquoi je vous ai appelée. Oui. J'étais très touchée. Je suis une petite fille, tu parles, de 86 ans.
Mon Dieu, mais vous avez une voix tellement jeune.
C'est gentil.
Oui.
J'ai connu la guerre et surtout, malheureusement, d'une famille juive originaire, oui, les déportations et la séparation totale de mes parents et de ma famille, et aussi, heureusement, un sauvetage merveilleux par des personnes qui ont jugé normal d'aider des gens dans la pire des détresses.
Oui.
Et c'est ce qu'on appelle dans certains cas, quand on les retrouve, les justes parmi les nations. Et donc, je suis venue de ça. Et la guerre s'est terminée. Et quand on me dit, la guerre est finie, tu peux t'appeler comme avant, etc. Il n'y a pas d'avant. C'est
oui,
pas vrai. Il y a autre chose. Je ne dis pas qu'il y a un après, ça ne veut rien dire. Il y a à chaque fois, c'est ce que je pense, pour aider tout le monde qui a envie d'être aidé, un moment qui nous appartient. Ce n'est pas ni avant, ni au milieu, ni après. On peut dire ça, c'est facile. Par contre, quand on dit non, il n'y a pas d'après. Il y a qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux apporter à la société. Bon, ça a été ma joie de vie, puisque... Je peux continuer comme ça ?
Oui, je vous écoute, Margot. Je vous écoute. Votre voix est mélodieuse, c'est une chanson.
Oh, bah tant mieux, c'est sympa comme tout. Parce que, en pleine guerre, mais vraiment, alors que j'avais personne, mais mon père est venu me chercher une fois,
oui,
et j'ai vu une naissance de petits gorées. Hein? Oh, c'était extraordinaire. Ils sortaient les uns après les autres. Elle en avait au moins 7 ou 8.
Oui, c'est la force de la vie que vous aviez sous les yeux.
Tout à fait.
Oui.
Et c'est là où j'ai regardé mon père et j'ai demandé, est-ce que c'est pareil avec les femmes ? J'avais 9 ans.
Oui.
Et mon père m'a répondu, oui, mais il faut les aider. Vous me croyez ou pas ? Mais enfin, c'est pas la peine de dire vous me croyez ou pas. J'ai senti monter en moi une sève formidable et j'ai dit, je serai, quand je serai plus grande, quelqu'un qui aiderait les femmes à mettre au monde leurs enfants. Je suis sage-femme.
Quel moment puissant de relation avec votre père. Comment
oui,
était votre relation avec lui avant cet épisode ? Parce que je crois que ça ne sort pas nulle part, ce moment d'échange entre vous.
Je ne sais pas quoi dire. Il paraît qu'il y a eu une fois, je devais avoir une double otite. C'est un souvenir dont je me souviens, j'avais 3 ans. Et
vous vous souvenez d'avoir 3 ans, c'est plutôt rare.
Non, mais il y avait 2-3 médecins à la maison et ils ont demandé sur les genoux de qui veux-tu aller ? Vous me croyez ou pas ? Mais enfin, vous ne pouvez pas me croire.
Je vous crois, Margot.
J'ai attendu un tout petit instant,
oui,
parce qu'il fallait percer, il fallait faire une parasynthèse. Et j'ai dit, sur les genoux de papa. Et en même temps, je sentais que ma mère allait souffrir de ce que je venais de dire, aussi petite que j'étais.
Là, c'est vous aviez quel âge exactement ?
Même pas 3 ans.
Ouais. Vous avez ce souvenir de façon directe ou vous pensez que vous l'avez reconstitué et qu'on vous l'a raconté ?
Non, direct. Personne ne m'a rien raconté.
Oui. Là, vous avez... choisi votre père. Alors, si je comprends bien votre sentiment, vous ne vouliez pas choisir votre père au détriment de votre mère, mais c'était quand même une relation élective entre vous et lui, quelque chose à part.
Je le pense.
Oui.
Je le pense et j'ai senti la peine qu'elle pouvait avoir. Mais j'avais quoi, 3 ans, même pas.
Vous pensez que vous en avez gardé un sentiment de culpabilité ou c'est pas ça pour vous le sens de l'épisode ? Est-ce que pour vous c'est simplement le sens de cet élan vers votre père ?
Je sais pas. Je pense qu'il y a un moment de culpabilité, mais je pense que ça a existé quand je les ai retrouvés après la guerre. Hein.
Oui.
Ma mère était particulière, mon père aussi, bien sûr, mais j'avais un élan direct avec mon père, clair et net.
Lui aussi a ressenti ça? Vous en avez parlé plus tard avec lui? Il se souvenait, lui, de son côté,
de
l'épisode?
Je me suis d'une situation où il était absolument pareil. Lorsque j'ai voulu faire mes études de sage-femme, on a été, enfin, il y avait plein de jeunes femmes, certainement de jeunes filles, qui étaient convoquées de cette manière. Je devais aller devant un inspecteur de police. Oui. Et j'avais quoi, 18 ou 19 ans, je m'en vais le papa. Et j'ai dit à mon père, je ne comprends pas. Je suis appelée à la police. J'ai un peu peur. Et mon père est venu avec moi. Oui. Et c'est à lui que j'ai dit ça. Et c'est lui qui m'a emmenée voir le policier. Il y avait comme une enquête de bonne éducation, si vous voulez, pour faire les études de sage-femme. Oui. Et c'est mon père. Mais je peux penser autre chose. C'est vous qui me le faites penser, ça.
Je vous écoute.
Mon père parlait très très bien le français. On était lorrains. Mais ma mère était d'origine allemande.
Oui.
Et je pense qu'elle elle n'avait pas les capacités qu'avait mon père. Point barre.
Quand vous dites capacité, vous parlez de quelles capacités? Capacités liées à la langue ou vous pensez à autre chose?
Non, les capacités de rencontrer, par exemple, des gens qui étaient responsables de la loi, comme c'était le cas quand j'ai été convoquée à la gendarmerie.
Ah, donc votre père avait la capacité de protéger sa famille et de vous guider. Et vous pensez que
parler normalement et d'avoir savoir à qui il avait affaire. Maman ne le savait pas.
Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de quelque chose de particulier ou d'étrange chez votre mère. Est-ce que c'est à ça que vous faisiez référence? Au fait que, pour elle, elle avait du mal à sentir l'autre dans le lien?
Je ne voudrais pas parler que de ça, mais je sais que quelques jours avant sa mort,
oui.
Elle m'a demandé, elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'étais si méchante envers toi, pardonne.
Ah.
Voilà. Et moi, j'ai dit, mais maman, c'était la guerre, patati patata. Elle a dit non. Elle a dit, c'était autre chose. Je n'ai jamais su quoi. Mais je ne le cherche pas. Écoutez, j'ai 86 ans, on ne va pas commencer. Je suis contente de pouvoir encore apporter des tas de, j'espère, je ne veux pas dire, des tas d'espoir et d'espérance à de nombreuses personnes pour dire que même dans les moments les plus destructifs, on ne peut pas dire autrement, c'était la guerre dans mon temps.
Oui.
Hein, je veux quand même dire une chose, c'est que ma mère, alors là, elle était plus forte que mon père. Elle est sortie d'une réunion de famille qui s'appelait un conseil de famille. Quand j'étais petite, j'avais 7-8 ans. Quand ils ont dit conseil de famille, je croyais que c'était un conseil des rois. J'apprenais ça à l'école, tu sais, le conseil des rois.
Mmh.
Et elle est venue en disant, eh bien, c'est parfait, tout le monde est d'accord, si les Allemands doivent nous prendre, nous tuons les enfants, nous les suicidons, et nous, après. Eh bien, je vais vous dire, j'étais contente, parce que je savais qu'au moins, je ne souffrirais pas.
Oui, alors, ce qu'on peut remarquer, Margot, à propos de cet épisode si radical, c'est qu'il s'est produit à peu près en même temps que l'épisode qui, lui, était radicalement du côté de la vie, parce que la naissance des petits porcelets, vous le situez à peu près à la même époque, vous dites vers 7-8 ans. Donc peut-être, enfin là on a deux, enfin j'en tire pas d'interprétation particulière, mais il y a quand même deux épisodes en vis-à-vis. On va dire, la loi maternelle au sens de la loi est dure, mais c'est la loi qui dit que plutôt mort que pris par les Allemands, donc ça c'est une loi morale extrêmement dure du côté de la mère qui pouvait aboutir à la mort, et de l'autre côté quelque chose du côté du vivant avec votre père qui vous fait assister à la naissance des porcelets et qui vous donne envie de faire votre métier, d'aider les femmes dans leur accouchement. Donc là, il y a deux systèmes en vis-à-vis. On ne les juge pas quand on dit ça. m'ont dit qu'il y a vraiment, c'est quelque chose quasiment de diamétralement opposé. Une loi très dure qui peut conduire à la mort et un regard sur la vie qui soutient la naissance. C'est frappant ce contraste.
Je pense ça aussi. Mais l'affaire de si les Allemands doivent nous prendre, on était deux enfants, mon frère aîné et moi-même. C'était juste avant. C'était à 8 ans et à 9 ans, c'était les gorées, les porcelets. Voilà. Mais je pense que vous avez raison. C'est quelque chose... J'ai trouvé que la famille qui s'était réunie avait trouvé une étrange solution, d'autant que aussi petite que j'étais, on m'avait déjà changé mon prénom, on m'avait baptisée catholique, etc. Et
quel mon nom est votre de famille. Prénom vous, là, vous, aujourd'hui, votre prénom, c'est Margot.
Ah, c'est le vrai prénom de naissance.
Oui.
Pendant toute la guerre, je me suis appelée Marguerite. J'aime beaucoup m'appeler Marguerite.
Oui.
Il n'y a que ma fille et mon fils qui comptent. D'un seul coup, ils disent Marguerite. Voilà. Mais c'est Margot. Et quand j'ai découvert après la guerre, avec des papiers d'identité, des vrais, que j'étais née Margot, M-A-R-G-O-T.
Oui.
Je vais vous dire quelque chose, je suis ravie. Parce que Margot, G-O-T, c'est Goth, c'est Dieu.
Oui.
Hein? Ça c'est, et mes parents m'ont dit qu'ils avaient appelé mon frère Paul et moi Margot, parce que c'était quelque chose qui était unique, aussi bien ça s'écrivait pareil en allemand, en anglais et
oui.
en français. Oui. Margot, oui. J'aime bien.
C'est un prénom qu'ont choisi vos deux parents ensemble ?
Ah, ils ont choisi. C'est mon père qui est allé me déclarer.
Oui, à la mairie. Ça c'était classique. Mais là, ils étaient unis dans le choix de votre prénom.
Oui, j'ai su ça, quoique ma mère avait envie de m'appeler Eliane. Je pense que si elle m'avait appelée Eliane, j'aurais été beaucoup plus calme. Élie, Anne, n'est-ce pas, c'est tellement biblique, etc. Chez Margot.
Vous savez, bon, vous dites que vous avez ce souvenir à partir de 3 ans, vous cherchez pas tellement à l'interpréter, mais peut-être, puisque vous êtes dans un message de vie et d'espoir aux personnes, ce qu'on peut imaginer, c'est que c'est une hypothèse, on saura jamais, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de preuve tangible pour ça, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que vous aviez deux parents manifestement très différents, c'est-à-dire des personnalités différentes, des positions subjectives différentes, d'être des modalités de lien à l'autre très différents. On peut supposer que à 3 ans, si vous êtes allé vers votre père, c'est probablement que vous avez senti qu'il y avait une mouvance commune entre vous et votre père, une sorte, je ne sais pas comment appeler ça, une affinité de personnalité ou une affinité d'âme. Parce qu'on sait que les enfants, ils sont... pas beaucoup, même pas du tout, à 3 ans, dans le cérébral, dans la pensée rationnelle. Ils sont vraiment dans le champ des émotions et le champ du cœur. Donc un enfant perçoit extrêmement bien de quoi est faite l'ambiance d'une personnalité, pour l'appeler comme ça, ou la mouvance. Pour ma part, j'ai l'idée que vous avez pu aller vers votre père, non pas pour rejeter votre mère, mais de la même manière que des aimants s'attirent, vous êtes allé vers une polarité ou vers un champ personnel qui était en affinité avec vous. Et je crois que ça vous a probablement donné une énorme force. Vous avez vraiment été appuyé sur un idéal de père. À nouveau, vous y avez trouvé un idéal du côté de la vie. À 9 ans, vous vous êtes à nouveau appuyé sur cet idéal-là pour choisir un métier qui, dans votre cas, est un métier passion. Et aujourd'hui encore, quand vous parlez de surmonter la guerre, vous parlez de renaissance. Donc il y a toute une chaîne comme ça d'appui, d'énergie que vous avez trouvée en vous appuyant sur un père qui, à vos yeux, était une figure idéale. Ça vous paraît juste de dire ça ?
Oui, d'autant que quand, à l'époque, nos familles, j'étais, si vous voulez, quelqu'un qui n'était pas bien élevé par ma mère, en tout cas. Elle disait, ça ne se fait pas, une fille de bonne famille, entre guillemets, hein, ne fait pas un métier de sage-femme, évidemment. Elle fait plutôt puéricultrice, ou elle fait plutôt, surtout l'idée de ma mère, jardinière d'enfants. Et moi, c'était pas du tout ça. Et mon père disait, après, quand j'ai eu mon diplôme d'État en France, bien sûr, et français, ma fille peut aller dans le monde entier, chez les Noirs, les Jaunes et les Blancs, et toutes les ethnies, elle a un métier universel.
Donc ça, c'est ce que voulait votre père pour vous. C'était le désir de votre père pour vous, que vous soyez une citoyenne du monde. Déjà, il le voulait à travers votre prénom, et là, il le voulait à travers votre métier.
De toute façon, ça s'est fait comme ça. Maman ne savait pas très bien ce que ça signifiait, ce que j'étais, mais ça n'a pas d'importance. Je veux dire que ce qui a de l'importance, c'est ce que j'ai conservé, des éducations que j'ai eues au travers des religieuses, des couvents, des gens cachés. Et même après la guerre, ça n'a pas été facile. J'ai été dans une maison d'enfants. Alors là, j'avais 14 ou 15 ans. Mmh. À Lausée, de l'œuvre de secours aux enfants. Et là, il y avait... j'ai rencontré Elie Wiesel. Vous voyez,
qu'elle a
des prix Nobel.
Oui.
Bon, il était tellement triste. Et moi, j'étais pas du tout triste. C'était autre chose. Enfin, on était des enfants rescapés les uns les autres, retrouvant peu à peu des membres de la famille ou pas du tout. Mais le fait d'avoir ce métier, je me suis sentie guidée toute ma vie et j'ai pu faire des choses, enfin, je ne veux pas me vanter, mais enfin, des choses nouvelles pour cette profession. Que je continue à aimer, parce que d'abord, même bibliquement, c'est marqué, lorsque le pharaon avait dit « je veux pas que ce peuple des Hébreux, qui était là-bas, fasse des enfants à tire-larigot », les sages-femmes étaient priées de les laisser mourir, hein. Sur le siège, ça s'appelle. Et les sages-femmes, il y en avait deux. Une qui s'appelle Pouar et une qui s'appelle Chifra, qui n'ont pas obéi. Mais il y avait déjà la milice. La milice est allée dénoncer les sages-femmes au pharaon et à sa clique. Et il a dit, il les a appelés, puis il a dit, mais vous n'obéissez pas à mes ordres. Alors elles ont eu cette réaction, car elles s'étaient tout de même concertées. Elles ont dit, oui, mais quand on arrive, les femmes, l'enfant est déjà là. Et là, je vous donne cette indication. Regardez comme c'était étrange. Là, le pharaon ne pouvait rien dire. Pourquoi ? Parce que l'enfant était né. Et si on avait tué l'enfant, c'était un infanticide.
Oui.
Alors que si on n'avait pas laissé venir, qu'on avait tué in utero, c'était un féticide, vous vous rendez compte ?
Oui.
C'est beau, moi j'adore ça. Alors, je ne vais pas retenir toutes les personnes qui ont envie de vous parler, mais je vais vous dire, quand récemment, c'est pour ça que j'ai appelé des jeunes enfants de cette école catholique chrétienne, dans un collège finalement tout à fait laïque, ont souhaité que quelqu'un vienne raconter un peu une vie qui a duré 4 ou 5 ans, soi-disant, d'enfants, etc. Ils avaient préparé eux-mêmes toute une exposition touchante, je ne peux pas vous dire. Il y avait un enfant qui était là. Il a dit, ben oui, mon grand-père a été ramassé, l'église, enfin, un truc catholique, hein, a été ramassé et déporté, et il avait amené, non, c'était des enfants de 14-15 ans, le souvenir du grand-père, et j'ai vu un joli manteau de fourrure, grand-père était fourreur, vous vous rendez compte, avec ça, et quelques souvenirs de ces gens qui ne sont jamais revenus, hein. On va pas revenir sur ça. Je voulais surtout dire à chacun, je ne sais pas ce que ça veut dire, je sais ce que ça veut dire, le malheur, la tristesse, et je vous raconte pas ma vie et les gens que j'ai rencontrés qui disaient, elle n'est pas de chez nous. Je sais ce que ça veut dire. Et je veux dire que il ne faut pas perdre de vue ce que j'appelle, moi, la reliance. J'ai été élevée par des religieuses, j'ai été élevée par des gens d'amour comme ça. Ben évidemment, ils étaient proches, mes parents ne pouvaient pas
là,
m'aider.
Vous faites référence à l'étymologie du terme de religion, religare, relié.
Reliance et non pas résilience. Excusez-moi, je déteste ce mot. Il est bien, c'est un certain moment, mais pas traîner sa reliance pendant 3, 4, 5, 6 ans parce qu'on ne fait pas d'efforts. Il a fallu faire des efforts énorme pour y arriver, et je sais que n'importe qui peut y arriver, puisque moi j'y suis arrivée. Voilà.
Il me semble, Margot, que ce que illustre votre discours, c'est que dans un monde humain, ce ne sont pas les faits bruts qui décident de notre vie, parce que vous avez connu des faits terribles, vous avez connu la guerre, vous avez connu le deuil, vous avez connu les changements de vie, vous avez connu des différentes menaces, et en fait la manière dont vous voyez les choses, la manière dont vous vous racontez l'histoire, en psychanalyse on appelle ça le mythe individuel, de la légende que vous faites de votre propre vie, va du côté du vivant et de l'espoir. Donc au fond, dans un monde humain, ce n'est pas le fait brut qui décide, mais la manière dont nous concevons les choses et le sens que nous leur donnons. Ce qui signifie que nous avons une marge de manœuvre, parfois bien plus importante que nous ne croyons, sur notre destin. Nous ne sommes pas uniquement soumis victimes des faits, nous avons entre les mains la possibilité de leur donner un sens, et c'est ce que vous faites.
Je le pense.
Eh bien, merci beaucoup Margot pour votre témoignage, et puis on ne peut que vous souhaiter une longue, belle vie à l'image de ce qu'elle a été.
Oui, en tout cas, je vous embrasse toutes, et puis bon courage, et pas peur, même pas peur.
Ce sera très utile pour cette période dans laquelle nous vivons. Merci Margot. Belle continuation à vous.
Au revoir.
Au revoir.